Nous voici à l'époque de l'année où l'on formule des souhaits, où l'on échange des vœux de bonheur, de bonne santé, de paix et de prospérité. Le ton est à la bonne humeur, à l'optimisme et à l'espérance. N'est-il pas vrai toutefois qu'il y a à l'arrière-plan de ces souhaits une certaine présence de crainte et d'angoisse? On souhaite le bonheur, mais il est si fragile, et l'on ne sait pas exactement le définir. La santé, mais elle est si vulnérable. La paix, mais elle est si menacée, et la prospérité synonyme de succès en notre société, que nous apporte-t-elle de sûr, sans la santé et sans la paix? C'est pourquoi nos souhaits sonnent parfois faux, c'est pourquoi ils prennent souvent l'aspect d'exorcisme à l'intention d'un avenir incertain qui pourrait se faire menaçant. Il y a une raison fondamentale à cela, c'est que nos espérances restent rivées à la terre. Nos semailles, nous les faisons pour la chair. Notre vision ne dépasse pas les bornes de notre vie. Santé, prospérité, paix et bonheur, où est la part de l'esprit en tout cela? Il demeure cette partie de notre être tragiquement négligée, sous-développée, provoquant un grave déséquilibre, d'où nos craintes, nos doutes, nos angoisses et même nos superstitions. Non pas que la santé ou la prospérité soient des espérances illégitimes, mais que nous sachions au moins mettre les choses aux places qui leur conviennent. Écoutez par exemple l'apôtre Jean, s'adressant à un frère chrétien, « que j'aime dans la vérité », précise-t-il. Il écrit à son égard, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » De même, l'apôtre Paul s'inquiète de l'essentiel lorsqu'il pense à ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ. À leur intention, il écrit « Le vœu de mon cœur pour eux et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Je viens d'être frappé de nouveau par un passage de sa lettre aux Galates, où il déclare « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Les chrétiens d'alors se préoccupaient de savoir s'il fallait exiger d'un païen qu'il devienne israélite avant d'embrasser la foi chrétienne, d'où les querelles concernant la circoncision. « Tout cela n'est rien, dit Paul. Ce qui compte, ce qui importe vraiment, c'est d'être une nouvelle créature. » C'était là l'essentiel. Qu'est-ce que cela signifie? L'auteur de cette formule nous donne d'importantes précisions dans une autre lettre, notamment la seconde aux Corinthiens, où il déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Cette conception de création nouvelle semble surpasser toute autre préoccupation dans la pensée du grand apôtre. C'est pourquoi je voudrais l'examiner du plus près avec vous. Avec elle, nous entrons au cœur de la foi. Avec elle, nous comprenons mieux pourquoi la venue du Christ est pour nous une bonne nouvelle. Avez-vous noté cette phrase « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Deux mots constituent la clé de la pensée de Paul, « en Christ ». On les rencontre 55 fois dans le Nouveau Testament. Ils sont l'explication, la définition même du mot chrétien. Ils suggèrent une telle participation, une telle intégration à l'œuvre et au sacrifice du Christ que la vie du chrétien s'identifie à celle du Sauveur. Il s'agit dans l'Évangile de mourir avec Christ, être enseveli avec Christ, ressusciter avec lui, vivre avec lui, régner avec lui. Comment cela est-il réalisable? N'est-ce pas exiger quelque chose qui soit au-delà des possibilités de l'homme ordinaire? Pas du tout, et nous allons le voir ensemble. Comment réagissons-nous devant le commandement « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée » La réponse sincère est généralement la suivante. Il est impossible de me forcer à aimer qui que ce soit. Je ne puis même pas me contraindre à aimer quelqu'un de bon. Or, Dieu me paraît si lointain, si abstrait, si inaccessible, si en dehors du monde réel dans lequel je vis. Il y a une telle distance entre lui et moi, que jamais je ne parviendrai à l'aimer davantage que tout ce qui m'entoure. C'est un raisonnement légitime et réaliste. Mais c'est ici qu'intervient l'Évangile avec son message extraordinaire. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a donc fait le premier pas dans notre direction. Il est venu partager l'existence des hommes et se rendre ainsi plus accessible à leur affection et à leur intelligence. Par la tendresse de son cœur, la constance de son amour, par le fait que pour nous tous, il a tout abandonné et renié jusqu'à sa propre vie. Comme il fallait que la mort éternelle frappe tous les hommes à cause du péché, il s'est offert lui-même comme sacrifice, détournant sur lui la colère de Dieu. Il devient ainsi, pour ceux qui le désirent, pour ceux qui l'acceptent, le moyen de parvenir jusqu'à Dieu, le médiateur, la porte, le chemin. Il ne peut y avoir d'union entre Dieu et les hommes sans cet intermédiaire qui est à la fois Dieu et homme. L'apôtre Paul nous aide à faire cette découverte de Dieu en Christ et de son amour lorsqu'il écrit « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans un autre texte où transparaît sa reconnaissance éperdue, il déclare « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est comme si ses yeux s'ouvraient pour la première fois à la lumière. En Christ, il est une créature nouvelle parce que ses doutes se sont dissipés, parce qu'il a accepté le sacrifice du Christ comme un événement qui le concerne personnellement et directement. Il a la certitude alors que ses péchés sont effacés. C'est dans un cri de triomphe que l'apôtre Paul s'exclame « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » L'homme en Christ ne sent plus comme auparavant l'attrait irrésistible des séductions de ce monde. Son intérêt est dans les choses plus élevées. Même l'horizon de sa vie s'est élargi considérablement, car Christ en est le centre, comme le ciel des astronomes lorsqu'ils découvrirent que le soleil était le nouveau centre et non plus la Terre. Cela ne veut pas dire que les extérieurs de la vie doivent changer radicalement dans tous les cas, mais dans tous les cas, chaque activité naturelle de la vie se trouve haussée à un niveau supérieur. Toute l'existence est désormais marquée du sceau de l'Évangile, en Christ. Tout en demeurant essentiellement semblable à ce qu'elle était auparavant, la vie devient nouvelle parce qu'elle est éclairée d'une nouvelle lumière, en Christ. Les travaux, les occupations, les responsabilités demeurent, mais en Christ, elles sont comme transfigurées. Le chrétien leur découvre un sens plus profond. Le mariage est une union dans le Seigneur. Les enfants doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur. Leurs parents doivent les élever dans le Seigneur. Les joies et les peines sont partagées en Christ. À cause de cela, les joies sont doublées et les peines sont plus légères à supporter. De même, la vérité ne peut se concevoir que dans la mesure où elle est en Christ, jusqu'à la mort qui demeure pourtant, mais qui n'a plus son aiguillon, car une béatitude la transforme. Désormais, heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. En Christ, sentez-vous, chers amis, toute la force de cette formule, tout ce qu'elle définit, tout ce qu'elle explique, tout ce qu'elle implique et tout ce qu'elle exclut. En Christ, donc, hors de ce monde. En Christ, donc, hors de moi-même et de mon égoïsme. En Christ, donc, obéissant aux choses de l'esprit, non plus esclave de la chair, non plus dans le péché, non plus dans la vanité. En Christ, donc, hors des brumes du doute et de l'incertitude, hors des ténèbres de l'incroyance. En Christ se trouve la destinée humaine. En lui, tous les problèmes fondamentaux trouvent leur solution. Le problème de la vie, de la souffrance, de la mort, de la destinée humaine. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire « Pour moi, la vie c'est le Christ, et mourir représente un gain. » Mes amis, en Christ, nous pouvons tous faire cette merveilleuse découverte. Nous pouvons tous remporter cette même victoire. Si vous consentez à le laisser entrer dans votre vie, l'acte le plus banal sera comme ennobli, parce que vous l'aurez fait pour lui. Il est capable de féconder votre présent pour qu'il s'épanouisse et devienne éternel. Sans lui, le présent demeure stérile et finit par se perdre dans la mort éternelle. Êtes-vous vraiment en Christ ou vous êtes-vous contenté de le fréquenter de loin, timidement? Si tel est votre cas, vous ne devez plus hésiter. Faites de cette nouvelle année l'année de votre conversion réelle. Par la foi et le baptême qui la couronne, vous participerez à ce qui s'est réalisé au calvaire pour vous. Vous mourrez avec le Christ et vous ressusciterez avec lui en nouveauté de vie selon la promesse. Il est écrit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Puissiez-vous être compté parmi ceux à qui s'adresse cette parole. C'est mon vœu le plus cher pour vous tous. La santé, la prospérité sont de bonnes choses, mais ce qui compte vraiment, c'est d'être une nouvelle créature.